individu de l'homme va pour terminer ce qu'on appelle la loi de Saint-Denis. Nous avions déjà le décalogue ici. Plus ici un rituel, après le couleur, un rituel, le rituel pour la tante sainte. Et maintenant, on va avoir, donc nous avons déjà deux textes de loi, nous allons avoir un troisième texte de loi, et bien sûr ultérieur qui a été fabriqué d'abord pendant la royauté à Jérusalem. Mais, puisqu'il était déjà en germe dans des airs, on peut le mettre là. Nous sommes toujours dans des airs. Toujours dans des airs. Et l'exode s'est passé. L'espace d'un mois, le Lévitique a passé aussi l'espace d'un mois. C'est un approfondissement spirituel. Qu'est-ce que c'est que le culte? Où est-ce qu'il commence? C'est toute une réflexion sur la liturgie qu'il y a dans le Lévitique. Et toute la symbolique de la liturgie va être décantée dans ce culte. Mais autour de la rubrique sacrifice, sacerdoce, pur impur, ça veut dire. On pourrait dire, au lieu de pur et impur, sainteté. Et de fait, c'est le terme qui va être repris. Dans le dernier chapitre, c'est un assise du Lévitique, qui sont tout un code de sainteté. Sacrifice. Bon. Nous passons ici aux feuilles 17 à 18 que je vous ai remis ce matin. Dans le livre du Lévitique, il y a beaucoup de lois, il y a très peu de récits. Et cependant, il y a à l'intérieur de ce texte, hein, tout comme Jean-Pierre Sonnet l'a intitulé, une cohérence narrative. Il y a quand même quelque chose qui se passe, mais non pas extérieurement, mais intérieurement. Si le livre de l'Exode se termine par la consécration du sanctuaire, il ne raconte pas cette affaire. Dont Moïse est pourtant instruit en Exode 29. L'investiture d'Aaron et de ses fils n'advient qu'en Lévitique 8 à 10, pas tout de suite. Les 7 premiers chapitres, ce sont ceux-ci, les sacrifices, dévolu à des instructions sur les différents sacrifices, permettent ainsi aux nouveaux prêtres de poser leur premier geste sacrificiel, muni du rituel nécessaire. Ils font ce qu'on leur demande, et en le faisant, ils nous comprennent. Lorsque ton fils de Dada te demandera tiens, comment on fait ça, tu leur répondras, nous étions esclaves. C'est une indication pour ta liberté. Pour ça. Les lois ne sont faites que pour rendre l'homme libre. Dans toutes les religions, le sacrifice est une manière d'entrer dans une relation plus étroite avec la divinité. Effectivement, en hébreu, un sacrifice se dit korban. Korban, c'est écrit comme ça. Il est utilisé dans l'évangile. Korban, ça veut dire sacrifice. Et ça veut dire faire approcher, faire écrit Corban, faire approcher une approche, un Corban, un sacrifice, c'est une approche. On fait approcher ce que l'on a, ce que l'on a reçu, on le fait approcher du donateur. Une reconnaissance, non pas seulement du don, mais une reconnaissance du donateur par le don. Donc le Hakim Corban, ça veut dire je fais approcher de Dieu ce que je suis, à travers ce que j'ai, ce que je suis. J'ai reçu un beau costume, une belle robe, je l'aime bien, puisque je l'ai reçu. J'en fais cadeau. Puisque c'est un cadeau, je peux en faire cadeau. C'est ça qui est magnifique. Alors je n'ai plus rien, mais si j'ai le cadeau, j'ai donné. Le don est beaucoup plus important que la possession.
Alors voilà, le sacrifice comme don offert à la divinité. Holocauste, ça veut dire on brûle tout. C'est-à-dire, tout s'en va ensemble. Hein. Vous voulez faire un sacrifice par quoi, de votre voiture, ça vous la brûlez. Hein. Ça, c'est un sacrifice. Vous avez un sacrifice. Offrande végétale, c'est le plus courant. Les prémices de la terre. C'est Dieu qui m'a donné mon champ. Donc je vais prendre la première gerbe et je vais aller la lui offrir. Et alors, je ne l'ai plus. Je perds la réalité matérielle et je gagne le rapport avec Dieu. Il y a tout un chemin intérieur. Et en faisant cela, en donnant ce que j'ai moi-même reçu, c'est une expression qui revient souvent dans les oraisons hein, de la messe, le sacrifice offrira une communion avec la vie. Non pas une communion matérielle, bien entendu, hein, Dieu la cure, hein, de nos taureaux, bien de nos agneaux, c'est pas ça. Ça nous met en rapport d'intimité avec Dieu. J'ai lâché quelque chose de ma possession et je le gagne en rapport, en relation. C'est ça l'important. Sacrifice de paix, shlamim, shalom, les shlamim, les sacrifices de paix ou de communion. Et tout le monde va profiter de ce que je donne. La sacrifice de communion, et on distribue ça aux prêtres, qui n'ont pas d'autre revenu, et à tous ceux qui. Le pauvre, par exemple, hein, la soupe populaire est faite avec la viande qu'on offrait dans les sacrifices. Le sacrifice visant une expiation des péchés. C'est une manière de communier quand on n'est pas en état de communier. Quand on n'est pas en état de communier, c'est-à-dire quand on ne se trouve pas en paix avec Dieu, bien, il faut d'abord lâcher beaucoup de choses, lâcher de l'Est. Et restaurant la communion avec la divinité, c'est le sacrifice pour le péché ou le sacrifice de réparation. Ce n'est pas le sacrifice qui fait les choses. C'est le geste d'offrir et de laisser disparaître en quelque sorte ce qui était ma possession. C'est le feu généralement qui consume. Donc je le lâche. Mais il faut lâcher intérieurement, bien entendu. Je ne lâche pas intérieurement si je suis toujours poursuivi hein, par la même obsession ou même par la même culpabilité, je n'ai pas donné, je n'ai pas offert. Et donc vous voyez que ce sont des gestes extérieurs qui demandent à être compris intérieurement par une attitude spirituelle. Et le juge le sait très bien. Ce dernier rôle, celui que les textes mettent en valeur, avec un accent très fort, sur l'absolution, sur la réparation, ou sur la purification par le sang. Et le sang, ça ne purifie pas, ça tâche. Matériellement, mais la vie de toute chair est dans son sang. Vous faites une blessure, l'occasion d'une blessure à quelqu'un qui perd son sang, il perd sa vie. Le sang symbolise la réalité vitale. Et donc, symbolise la manière dont Dieu donne la vie là où il y a la mort. Une expression qui signifie ça. Donc le sang est extrêmement important, mais pas matériellement. C'est. Il faut vraiment percevoir cette réalité spirituelle et symbolique du sang. Et alors, on va vous faire l'inauguration du sacerdoce. On va faire un premier sacrifice, après une fois que ça a été, on a donné toutes les règles, on va faire un premier sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas un sacrifice. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui avaient vu la présence du Seigneur, ils font un sacrifice étranger. Ils admettent, d'une manière de dire, un feu étranger. C'est-à-dire que ce sacrifice n'est pas une véritable résultat. Bien, le feu qui descend du ciel entre et qui va prendre ce qui est sur l'autel, qui va consumer, ça consume aussi le prêtre. Et chez eux, Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a don de Dieu, ça doit être réfléchi. Toute nouvelle alliance, toute nouvelle origine, tout nouveau don de Dieu, il y a refus. Tellement l'homme a du mal de tout prendre. Il veut prendre. Pas du mal, il veut prendre la vie. C'est la convertie. Et alors, sur ce Nadab et Abihu, fils d'Aaron, commettent la faute d'improviser une offrande de leur propre initiative, parce que vous les le feu divin dévore à présent ses officiants présomptueux. Le sanctuaire étant déjà profané du fait du sacrilège des deux prêtres et en raison de la présence de l'enfant, ça ne va plus, hein. Moïse veille à la continuité du culte, hein, il fait enlever les cadavres, une célébration de purification. L'achèvement du rituel commencé en 19 permet toutefois à Aaron de donner une leçon de casuistique à Moïse, parce que le bouc du sacrifice est aussi brûlé, consumé dans le tournage. Du sacrifice pour le péché a-t-il été brûlé et non pas consommé, de mettre un petit morceau pour tout le monde. Parce que le rituel prévoit, dans le cas où le ministre prêche gravement, que l'animal soit entièrement livré au feu, y compris la part en principe réservée à l'officier. Donc Dieu, en quelque sorte, purifie la totalité. Et jamais l'homme qui se purifie. Il n'y a pas de magie dans ce service. Le rite ne fait pas revenir la présence de Dieu. Le rite est l'expression, la reconnaissance de la présence de Dieu pardonnant déjà là. Les retombées de la faute des fils d'Aaron se lisent jusqu'en Lévitique 16, nous verrons la fois prochaine, où Moïse reçoit la législation du jour des expiations. Pourquoi faut-il un rite? Et quelle est la valeur? C'est exactement comme dans les actes de l'apôtre, vous voyez que Saint-Luc utilise très peu le terme de baptême. Mais dès qu'on est baptisé, c'est l'initiative absolue de l'Esprit Saint. C'est quand l'Esprit Saint est là qu'on peut baptiser. Mais le baptême ne fait jamais devenir l'Esprit Saint. C'est la même chose. Dieu est absolument libre. Parce qu'il est libre, il donne sa liberté aux hommes. Ceux qui étaient morts en s'approchant du Seigneur sont ainsi remis en disposition de partenariat. L'institution de la purification du Yom Kippour a sa raison d'être dans la catastrophe de l'inauguration du sanctuaire. Autrement dit, l'homme n'est jamais fidèle. Donc, Dieu doit toujours réparer en l'homme sa liberté que l'homme a du mal à recevoir. Nous verrons ça la fois prochaine. La fois prochaine, nous terminerons l'histoire, c'est une histoire du Lévitique, sa signification pour nous, ça nous concerne. Et alors, nous verrons un peu comment ça se poursuit dans le livre de l'Évangile. En train de parcourir le livre du Lévitique, qui se trouve au milieu du Pentateuque, et c'est pas pour rien qu'il se trouve au milieu, c'est ce que nous pouvons encore voir maintenant. Je vous rappelle donc que dans la Genèse, on a mis les réalités en place, homme, femme, frère, frère et sœur, génération, et rapport entre les peuples. Il s'agissait de problèmes de communication, communication avec Dieu, Dieu qui regarde la réalité du monde, et dans cette réalité du monde, eh bien il y a souvent du désordre, et sur le plan de l'espace, et sur le plan du temps. Nous avons vu que la Genèse montrait comment Dieu réalise son dessein à travers l'opposition des hommes, ce que l'homme lui donne. Donc il a un dessein de salut, ce dessein de douceur, il est contre la violence, mais que cette violence existe, et Dieu
la rétablira du dehors, de l'extérieur, mais il essaie de rétablir la paix, la justice, la communication entre les hommes à partir de l'homme lui-même. Donc il fait tout un travail de construction de l'homme, mais avec la liberté de l'homme. Donc cette liberté doit être éduquée petit à petit à la réalité de Dieu. Et comme Dieu est tout autre, comme il ne peut se manifester qu'à travers ce qu'il fait, il faut pouvoir capter ce qui vient de lui. Et ça prend du temps. Et pour exprimer le temps que cela prend, il faut faire des voyages. Nous avons vu que les voyages existent déjà. Déjà à partir d'Abraham, ça commence là, avec les voyages. Et puis que Ésaü, Jacob, Isaac, tous ces personnages marchent à travers le temps et donc aussi à travers l'espace. Mais si tout cela est raconté comme cela, c'est pour montrer que l'itinéraire, c'est surtout un itinéraire intérieur, un itinéraire spirituel. Mais cet itinéraire spirituel ne peut se vivre qu'à travers la réalité que nous possédons, c'est-à-dire cette portion de surface terrestre, cette portion de temps que nous avons devant nous, et tout cela se vit dans notre corps, dans la réalité corporelle. Et l'Exode nous a manifesté ce chemin-là. Et au cœur de l'Exode, nous avons vu qu'il y avait, au chapitre 19 à 24 de l'Exode, nous avons vu qu'il y avait cette réalité du Sinaï. Et là, le personnage qui entrait en scène, c'était Moïse, sauvé des eaux et donc sauveur. Quand on a fait une expérience intérieure, une expérience profonde de Dieu, cette expérience est peut-être pour être partagée. C'est ce que fait Moïse. Mais ce n'est pas facile, parce qu'on est toujours entre Dieu et les réalités humaines, et donc l'opposition. On se trouve comme ça, un puits entre deux feux, comme on dit. C'est ce que Moïse vit avec le peuple d'Israël, et que petit à petit, il décide à le suivre. Et nous n'avons vu qu'après le Sinaï, il se passe le veau d'or, c'est-à-dire la difficulté que l'homme a à recevoir le don de Dieu, à recevoir sa liberté. Nous avons ça surtout entre 32 et 34 dans l'Exode. Et de part et d'autre de ce veau d'or, nous avons le sanctuaire, c'est-à-dire la tente de la rencontre, qui doit être construit, mais selon le plan de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, construire selon le plan de Dieu? Ça veut dire construire ce sanctuaire de telle manière qu'il fasse percevoir et il abrite cette présence de Dieu que le peuple, que la communauté signifie. Nous sommes cette présence de Dieu. Et cette présence de Dieu doit avoir en quelque sorte un centre, doit être fixé. Toujours le problème du lieu, de l'espace et du temps. Il doit à chaque fois converger dans cette réalité de la communication de l'homme avec Dieu. Nous avons vu que la construction est dessinée en quelque sorte dans le ciel. Les plans sont faits entre le chapitre 25 et le chapitre 31 de l'Exode, et qu'il est construit entre le chapitre 35 et la fin de l'Exode. Et à la fin de l'Exode, vous savez, donc Dieu qui prend possession, Dieu dans le sanctuaire. Voilà. Et donc c'est là qu'on était arrivé pour l'Exode, c'est-à-dire la présence de Dieu. Dieu peut se rencontrer à un endroit déterminé, un endroit que nous n'avons pas fixé, mais que nous construisons. Et un endroit qui est le symbole de tous les endroits possibles, puisque c'est lui qui a créé le ciel et la terre, la totalité. Alors nous avons vu que le sanctuaire étant construit, Dieu ayant pris possession de ce sanctuaire, et quand Dieu me prend possession, c'est lui qui fait tout. Nous avons vu qu'on ne peut pas. On ne peut pas travailler dans le sanctuaire, on ne peut pas faire le culte. Quand Dieu est là, c'est lui qui fait tout. C'est lui. culte. Le culte, c'est vraiment laisser Dieu remplir le sanctuaire, hein, de notre réalité intérieure du peuple. Et alors nous avons vu que, on a d'abord présenté dans le Lévitique les sacrifices, partie importante, nous avons vu que le sacrifice rapproche de Dieu, c'est-à-dire exprime que nous sommes rapprochés de Dieu, donc nous nous approchons, nous lui offrons les biens qu'il a donnés, puisque tous les biens viennent de lui. Et donc, Dieu est censé nous rencontrer dans ses sacrifices. Mais bien sûr, les sacrifices sont des gestes extérieurs, des gestes du corps, mais Dieu doit nous rencontrer à l'intérieur de nous qui faisons le sacrifice. Le sacrifice, c'est le fait de faire approcher, se laisser approcher par Dieu, et s'approcher de Dieu dans le mouvement qu'il fait pour venir jusqu'à nous. Et puis nous avons... Ah oui, il y a le... Il faut le rappeler, le sacerdoce. C'est-à-dire là, pour maintenant des prêtres, pour offrir les sacrifices, c'est-à-dire des prêtres qui font le va-et-vient, qui sont le chemin intermédiaire entre Dieu et l'homme, pour recevoir les sacrifices, pour offrir les sacrifices, pour distribuer la part qui vient des sacrifices. Donc il faut du personnel pour faire tout cela. Et normalement ce serait tout le peuple, puisque tout le peuple est sacerdotal, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont choisies pour cela, à cause de leur violence, des lévitains. Donc il faut les assagir, hein, puisqu'ils aiment bien le sang, on va leur donner du sang dans les mains, du sang des sacrifices. Et ça va les apaiser. Mais nous voyons tout de suite, il y a vers le sacerdoce, nous avons le feu interdit, c'est-à-dire le feu étranger, un avod d'Azara. Donc ici, on avait vu qu'il fallait passer de la servitude, de l'esclavage. Nous sommes tous en servitude dans notre Égypte quotidienne, et nous devons passer au milieu de notre servitude, nous devons passer au service, c'est-à-dire au culte, à la reconnaissance de la présence de Dieu au milieu de notre vie. Mais c'est ce qui doit se passer, hein, à l'intérieur du Lévitique, des sacrifices offerts, hein, soit sacrifices pour l'Holocauste, c'est-à-dire on offre tout, on ne garde rien, hein, on brûle tout, on lâche vraiment toute la réalité de notre vie, on la lâche entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qui nous reste? Pouvoir lâcher tout entre les mains de Dieu. C'est le sens, c'est le but du sacrifice. Et il y a des préposés pour faire cela, le sacerdoce ministériel, toute petite partie, hein, la partie pragmatique, si vous voulez, du grand sacerdoce du peuple d'Israël. C'est le peuple qui est sacerdotal, c'est-à-dire qu'il doit faire le va-et-vient entre Dieu et les hommes. L'humanité et les nations. Et alors nous avons tout un passage sur le pur et l'impur. Très important ce passage sur le pur et l'impur, qui n'a aucune connotation morale au départ. Ça fait penser à cela. Mais la pureté ou l'impureté, c'est une situation de tête. Une situation d'ouverture, de présence à Dieu, ça c'est la pureté, hein, c'est cette ouverture que nous pouvons mettre dans notre vie, notre part dans notre vie, l'ouverture à Dieu qui est présent évidemment dans la réalité concrète de notre existence, est impur tout ce qui empêche cette présence de Dieu dans la vie. En soi, il n'y a pas là de réalité morale. Ce sont des réalités souvent concrètes, matérielles, et qui sont la manière de vivre du peuple d'Israël. Et puis, la manière dont le peuple d'Israël devrait vivre. C'est-à-dire devrait vivre sa relation à Dieu, qui est le saint, nous allons revenir à ce terme sainteté. Dieu est le saint, c'est-à-dire il est le séparé de tout autre. Celui qu'on ne peut pas découvrir dans le concret dans des situations humaines. Kadosh, Kadosh, c'est vraiment celui qui est, nous trouvons le mot qui vient de la philosophie, transcendant, qui est au-dessus de tout. Dieu, le très haut, c'est une manière évidemment d'exprimer les choses. Dieu est aussi le très haut, que le, aussi bien le très haut que le très bas. Mais c'est celui qui nous dépasse de toute manière, que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes, que nous ne pouvons atteindre que dans la mesure où il se laisse atteindre. Nous pouvons le percevoir. Mais nous pouvons le percevoir dans la création, donc en nous-mêmes. Dans la création qui nous entoure, et en nous-mêmes, puisque nous sommes, nous participons à la même création. Et donc, est pur ce qui est propre à la manière de vivre d'Israël. J'utilise un jeu de mots entre pureté et propreté. C'est propre à la manière de vivre d'Israël. C'est-à-dire qu'on vit le rapport à Dieu dans le temps et dans l'espace. Pour vivre ce rapport à Dieu dans le temps et dans l'espace, donc pour être pur, c'est-à-dire capable de nous ouvrir à la sainteté de Dieu, bien, il y a des conditions, et ces conditions sont souvent de type matériel, parce que ça atteint notre corps. Et spécialement, ça atteint notre corps dans sa réalité fragile. Donc tout ce qui concerne la vie, la pureté, c'est vraiment le rapport profond avec la vie qui vient de Dieu, qui est regardée comme venant de Dieu, la bénédiction. Rapport avec la vie. Donc, vie et mort. Donc, tout, puisque la vie se propage sur terre par la procréation, donc union sexuelle. Donc, tout ce qui concerne la sexualité est pris dans ce rapport à la vie. Mais tout ce qui fait grandir aussi, donc le manger, le boire, tout ça fait partie de la pureté ou de l'impureté. Donc il faudra toujours se référer à la manière dont Israël voit ces choses et les utilise. Pureté, donc, c'est comment Israël voit le rapport entre ce que l'on mange et cette présence de Dieu à l'intérieur de nous. Alors il faut des classifications. Il faut savoir, puisque la question de pureté et d'impureté n'est pas une question morale, on ne sait pas nécessairement qu'on a une impureté en soi. Je marche sur un endroit, mais c'était une tombe. Donc je marche sur une tombe. Donc je marche sur la mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien j'ai contracté, sans le savoir, une impureté. Donc oui, ça n'a rien à voir avec réalité morale, pas du tout. J'ai contracté une impureté. C'est pour ça qu'il faut blanchir de ces feux pour qu'on se rende bien compte qu'il y a de l'impureté dedans. Impureté, donc ça touche à la mort. Tout ce qui est mort, maladie, certaines maladies en particulier, notamment les maladies, c'est pas toujours considéré comme des maladies, mais comme des impuretés, qui détruisent l'image de Dieu dans l'homme. L'homme est image de Dieu. Quand il est bien constitué, quand il manque de rien, quand il n'est pas aveugle, quand il n'est pas boiteux, quand il n'est pas sourd, quand il a ses mains et ses pieds, il est vraiment une image de Dieu. S'il manque quelque chose, cette image sera tronquée. C'est une impureté. De nouveau, ça, c'est comme nous dirions, c'est un handicap. C'est un handicap à partir de ce que l'on peut considérer comme une certaine norme. Et une norme, c'est un peu l'intégrité de la création. Tout ce qui est défaut par rapport à cette norme, tout ce qui est manque, est considéré comme un pur. Donc, c'est pur ce qui est au fond, dans une relation à Dieu, telle qu'Israël l'a perçu dans la réalité concrète de son Église. Est impur une manière de faire tout à fait commune aux hommes, c'est le terme que Saint-Luc va employer pour dire souillé, c'est une réalité commune que tout le monde fait, mais sans ce rapport explicite à Dieu. Israël est le peuple sacerdotal dans ce sens qu'il met l'homme, tout homme, en correspondance, en communication avec Dieu unique, bien entendu. Ce qui est suprêmement impur, c'est l'idole, évidemment. Puisque ça ne met pas du tout le rapport entre l'homme et le Dieu unique, puisque c'est ramener Dieu, ravaler Dieu aux valeurs humaines que nous absolutisons. Donc ça, c'est suprêmement impur. Et si c'est absolument impur, ça tâche les doigts aussi de tous ceux qui fabriquent les idoles. Nous sommes tous des fabricants d'idoles, évidemment. Nous en fabriquons un par jour, au moins. Ça ne fait pas plusieurs. Et il faut un examen de conscience sert à ça, c'est à briser les idoles que nous nous sommes fabriquées en cours de journée, pour nous rapprocher de Dieu, précisément. Et vous voyez un petit peu le sens du sacrifice. Je consume, je détruis quelque chose pour me rapprocher de Dieu, pour être plus ouvert, pour ne pas être totalement encombré par d'autres réalités, c'est-à-dire les idoles qui m'empêchent d'être. C'est plus facile d'aller vers des idoles, évidemment, parce que nous nous y reconnaissons. Tandis que quand nous approchons de Dieu, nous sommes dans un territoire absolument inconnu. Toujours inconnu, tout ce qui est plus grand. On ne peut jamais en faire le tour, on ne peut jamais le contrôler, on ne peut pas le mettre en boîte. C'est difficile. Alors, au milieu du pur et de l'impur, nous avons un beau chapitre 16, qui est manière dont l'homme peut découvrir la miséricorde de Dieu au milieu de son péché, au milieu de son refuge, au milieu des obstacles qu'il met à ce rapport avec Dieu. Il y a un jour, le mot qui court est très difficile à bien expliquer. On traduit généralement par expiation, le jour de l'expiation. Le jour, qui pour l'expiation. Mais nous avions dans le temple, déjà dans le désert, dans la tente sainte, il y avait un coffre en bois d'acacia, le texte qui vient de ce bois-là qui est un petit peu insolu dans le désert, un petit peu d'acacia. Donc la caisse, il y avait une caisse, c'est-à-dire un coffre, fait en bois d'acacia, dans lequel se trouvaient, au départ, les tables de la loi. Un coffre, c'est un endroit où on conserve, nous sommes tous des coffres, hein, tous une mémoire, nous conservons quelque chose. Nous avons de l'important et nous conservons du non-important. Et cette mémoire aussi nous porte. Portons ce que nous portons, hein, comme on porte les tables de la loi, mais ce sont les tables de la loi qui portent la liberté d'Israël. Il y a toujours tous ces paradoxes qui jouent à travers tous les textes. Et donc, sur ce coffre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur ce coffre, il y avait un siège, un coussin, un espace. Et ce siège était flanqué de deux accoudoirs. Et ces deux accoudoirs, représentait d'un côté un taureau et de l'autre côté un lion. Elle est avec face d'homme. Vous connaissez très bien tout ça. Hein, ce sont des signes que vous découvrez déjà chez les Assyriens, ça vient d'ailleurs d'Israël, pour signifier ce sont des mishrizen, c'est-à-dire des êtres mêlés. Ah, mêlés, ça c'est pas. Non, parce que Dieu a tout séparé au début de la création. C'est là, il classifie. Donc si vous allez remêler les choses, un désert d'oiseau, un corps d'animal et une tête d'homme, c'est précisément pour elle, pour vous indiquer, ces êtres mêlés signifient que la présence de Dieu dépasse les mélanges, et qui n'aime pas les mélanges, la présence de Dieu est là. C'est un endroit où la présence de Dieu existe. Nous nous remplaçons ça aujourd'hui par des bénitiers ou des cierges. C'est un sarraf, en brûlant.
Il symbolise une présence de Dieu comme feu. Le bénitier, hein, de l'huile bénite, de l'eau bénite, pardon. De l'eau bénite, l'eau est aussi c'est grand composition de l'homme, hein, de l'environnement humain. Toujours à double sens, comme le feu peut brûler, éclairer, réchauffer, mais en même temps détruire, l'eau pareillement, on a besoin de boire. Elle est importante pour la vie, elle symbolise la vie. Nous commençons notre vie dans l'eau maternelle, donc c'est très important l'eau. Mais s'il y a bien un commande abondante, hein, elle détruit aussi. C'est toujours notre liberté face à ces éléments, les éléments du monde. Et donc, l'eau, le feu, élément purificateur. Il symbolise une purification intérieure que nous désirons vivre. Ce n'est pas l'élément lui-même qui purifie, mais si je n'ai pas un élément extérieur, la réalité purement spirituelle donc n'existe pas. Réalité qui est purement spirituelle, si tant est que ça existe. N'existe pas pour lui. Il faut toujours des signes sensibles. Qu'est-ce que l'élément qui dit la vie dans l'homme? Ben, c'est son sang. Donc si quelque chose n'est pas pur, je peux le purifier avec du sang. Mais je le tâche. Non. Le sang, parce que la vie me touchait dans son sang, la vie vient de Dieu. Vous voyez? Et donc tous ces éléments vont jouer d'une manière tout à fait symbolique. Car pureté et impureté sont de l'ordre du symbole. Pas seulement du matériau, mais le symbole, c'est-à-dire l'homme qui voit dans ses matériaux, dans ses réalités extérieures, et souvent physiques et corporelles, l'homme qui voit une perception profonde. Et alors, face à cette perception profonde, troisième degré, hein, le bon degré sensible, puis alors vous avez le degré symbolique, donc il voit, il reconnaît, et puis il y a le domaine moral intérieur. J'accepte, j'accepte pas. C'est-à-dire le niveau de ma liberté profonde. Et donc, il y avait une éducation à la liberté par le décalogue que nous avons vu ici. Et alors ce décalogue va être explicité par d'autres lois, ici dans le Lévitique, pour signaler à l'homme pureté, impureté. Comment fait-on en Israël? Comment vit-on une réalité de pureté? Il y a eu un mort dans la famille. Un mort, c'est une réalité impure, parce qu'elle montre la non-vie. Tout ce qui est des vies, c'est des rapprochements de Dieu. Quand la femme porte un enfant, elle porte la vie, donc elle est en présence de Dieu. Et c'est pourquoi la femme n'est pas tenue à aller à la synagogue le jour du sabbat, parce qu'elle est presque tout le temps en présence de Dieu. Quand on a 18, 20, 24 ans, toute la vie de la femme se passe pratiquement à concevoir, à porter, à mettre au monde, à allaiter des enfants, vous comprenez bien, elle est constamment en présence de Dieu. Donc la plupart du temps, elle est impropre à faire des travaux normaux de la vie. Elle est tellement prise par cette présence de Dieu. Donc elle se trouve proche de la vie. C'est tout à fait normal que si elle accouche d'un enfant, bien pendant 40 jours, elle va être souillée, c'est-à-dire impropre à faire les travaux du ménage, et elle fait sa retraite. Mais si elle met au monde une fille, ça sert ça le double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que par sa profondeur intérieure, son accueil de Dieu, elle puisse transmettre plus longtemps que pour un garçon
à une fille qui devra faire la même chose vis-à-vis de ses enfants, c'est-à-dire rester en présence de Dieu et accoucher et donc s'engager à éduquer les enfants dans cette présence de Dieu. Tout ça est chaque fois lié. Donc toute la vie sexuelle est liée à cela. Toute la vie, tout ce qu'on mange est lié à cela. Israël est une bénédiction sur la nourriture pour dire que ceci vient de Dieu. Donc je respecte cette nourriture qui vient de Dieu. Et donc respectant cette nourriture qui vient de Dieu, je m'engage à respecter la création de Dieu. Il y a toute une proposition écologique là-dedans, dans la bénédiction. Bénédiction des animaux, bénédiction de la nature, etc. Des animaux. C'est tout un cheminement écologique qui est présent et dans ta mûre. On ne fait pas faire au monde des choses qu'on ne doit pas faire. Et donc il y a une sorte de déontologie précise présente dans l'utilisation que nous faisons des biens de cette terre. On ne détruit pas pour le plaisir de détruire. On ne détruit pas la nature. Et finalement, cela commande toute la réalité de l'homme. Propre à cette présence de Dieu, cette liberté de Dieu, ou impropre, tout à fait sécularité, tout à fait idolâtre. Souvent, notre vie est une sorte de pacte avec une idolâtrie à travers une religiosité. Bon, tout ça. Le Lévitique nous apprend à vivre la sainteté à travers une purification que Dieu seul est à même de faire. On se purifie non seulement en prenant un bain ou en trempant son doigt dans du sang d'animal, un signe de purification. La purification intérieure, c'est-à-dire la reprise de tout notre être dans la présence de Dieu, tu es le seul à pouvoir le faire. Donc le lion, c'est Dieu qui vient sur ce qu'on appelle le cap provette, c'est-à-dire, je vous ai parlé du siège du corps sur lequel Dieu est censé venir siéger, bien au milieu de ce corps, sur ce corps, il y a un siège qui vient, qui s'appelle le cap provette, le lieu d'expiation. Traduit parfois. Pardon. Pardon dit peut-être mieux à notre vocabulaire d'aujourd'hui, le sens. Pardon, c'est le don qui traverse notre impuissance. Pardon. C'est un don à travers nos refus, à travers notre danger. C'est-à-dire, Dieu nous aime au-delà de nos impuissances, de nos impuissances morales, de notre mauvaise volonté. Mais celui qui traverse. Et justement, pour symboliser cela, est tout à fait au centre et du Lévitique, c'est un peu décentré du Lévitique, mais au centre tout à fait spatial maintenant, de tout le Pentateuque, vous avez le chapitre 16 du livre du Lévitique, qui est le jour du grand pardon, le jour des expiations, le jour où nous nous laissons reprendre totalement par Dieu. C'est pour ça que ce jour est généralement passé par les Juifs qui sont pratiquants, tout à fait pratiquants, en jeûne complet, 24 heures, pas d'eau, pas de poisson, pas d'aliments pendant un jeûne complet, et si possible, passer tout ce jour à la synagogue. Passer tout ce jour dans la présence de Dieu. Il y a une petite histoire midrashique qui raconte qu'il y avait un papa qui était venu au jour de Yom Kippour à la synagogue pour célébrer le jour de l'expiation et de la réconciliation avec Dieu, et qui avait avec lui son enfant, et son enfant avait reçu un beau sifflet. Et il était dans
s'approche.
Il tapait son sifflet, il aurait bien voulu. Mais pas le jour de. Et il aurait bien voulu l'essayer, son sifflet. Il y avait cette tentation. Et puis, tout d'un coup, n'en pouvant plus, son papa étant en train de chanter la prière. Les vœux, hein, tous les vœux, sont, tout le monde est dédié de ses vœux, une belle prière comme les vrais. Et François se dit, et il se met à siffler un bon coup. Le rabbin qui était en train d'officier s'arrête. Il fait trois pas en dehors de la présence, trois pas en arrière, hein, la présence de Dieu, fait trois pas en arrière pour dire, je me retire de la présence sainte du Dieu saint. Et puis il dit, quel est ce juste qui a déchiré le voile qui nous empêchait de monter jusqu'à Dieu et de recevoir sa miséricorde? Une impureté qui devient signe de pureté. Comme par exemple un sacrifice pour le péché se dit péché. Je vais faire un péché. Je vais offrir un péché. Ce langage-là est très significatif. Je vais offrir ce qu'il y a de mauvais en moi, ou ce qui m'empêche d'aller vers lui. Si je lui offre, ça n'existe plus. Il le prend. Si je le garde pour moi, ça reste un éternel handicap, un éternel obstacle. Pour aller jusqu'à la vie. Donc le Yom Kippour est vraiment laisser Dieu me pardonner, laisser la miséricorde de Dieu me constituer. À ce moment-là, Dieu prend son rôle maternel.